vous remercie beaucoup de nous donner cette occasion de réfléchir un peu nous-mêmes sur le pratique, parce que le mot important dans le titre, c'est le mot soin. Moi, je suis au quotidien dans le soin. J'étais 15 ans généraliste et on n'a jamais le temps de réfléchir sur ce qu'on fait. Donc là, ça m'a donné l'occasion d'essayer de mettre en idée l'élément actuel de la situation et de poser une question. Est-ce que ce qui nous arrive avec la connexion, notamment l'automesure et le quantified self, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je me garderai bien de savoir répondre, mais je voudrais poser les bases de cette discussion. Alors, on n'en est pas au stade dans la présentation que je vais vous faire de faire une analyse ou de faire une synthèse qui serait déjà aboutie, mais je voudrais simplement proposer une approche concrète avec un point de départ biomédical, hein, pas un point de départ philosophique, et puis donner un certain nombre d'exemples pour que vous ayez une vision concrète des choses. Donc je sous-entends tout ce qu'on ne parlera pas à propos de mon topo, c'est les notions de médecin de soi-même, les différences entre le normal et pathologique, la notion de la numérisation de la pensée médicale et le corps mesuré, la notion de surveillance, la notion détaillée de ce qu'est une relation médecin-malade ou encore de ce que c'est qu'une innovation. Je n'aborderai absolument pas ça. En revanche, j'éprouve le besoin qu'on pose un petit peu les mots qui sont employés autour de l'automesure et du quantified self. Je voudrais donner quelques détails sur les outils de la surveillance qui sont proposés au grand public. Première question, est-ce que ces appareils vont nous rendre fous ? Donc, de l'hypochondrie à l'hypochondrie, je me suis autorisé un petit jeu de mots. Ensuite, quand on regarde ces appareils, on se demande qui surveille qui. Donc, on peut avoir un certain nombre de craintes, on peut avoir un certain nombre d'espoirs. Et si j'en ai le temps, mais ça ne sera pas obligé, je vous montrerai très précisément le travail qu'on fait actuellement à l'hôpital Pompidou en proposant un nouvel algorithme de gestion de l'hypertension artérielle. Alors, il y a trois blocs de vocabulaire. Le bloc qui concerne la santé, le bloc qui concerne en gris les techniques et puis en vert un certain nombre de pratiques. Donc si je rentre dans le détail, on est tous bien d'accord qu'entre la santé, le fitness, c'est le mot qui paraît dans les revues grand public, dont je l'ai employé ici pour ça, c'est la forme, la prévention primaire, en général primaire, en soins et secondaire, c'est un continuum, on est bien d'accord. Et ce qu'on peut se dire, c'est que, un, il n'y a pas de frontières, ça sera très important dans l'utilisation des objets d'automesure de se souvenir de ça, et deux, finalement, qui tranchent sur ce que c'est que la santé ou pas, soit on revient aux symptômes, soit on revient à la définition médicale. Donc je ne le détaille pas, mais on sait que dans l'utilisation des appareils, ou voire dans l'écriture des algorithmes, ces questions vont se poser absolument tout le temps. Pareil, on dit que cette automesure pourrait être un avantage dans l'éducation thérapeutique ou les soins. Il faut savoir que ce sont, pour les professionnels de santé, des choses tout à fait distinctes et les lieux ne sont pas les mêmes. Donc l'éducation à la santé, ça se passe dans un lycée, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire. L'éducation thérapeutique, on est en face de patients qui ont déjà une problématique médicale, ou au besoin d'ailleurs, on leur répète, il ne faut pas fumer et pas boire, mais l'espace est beaucoup plus restreint. Et enfin, après, vous avez le soin dans le sens prescription médicale, relation singulière avec le médecin. Donc, en fait, on peut surveiller ces trois espaces. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu rappeler les mots. La surveillance, elle sera évidemment différente, mais elle est possible. Et en plus, sur les mêmes sujets, encore une fois, le tabac, on l'a absolument à tous les stades. Donc on peut surveiller différemment les gens, sauf que les appareils, eux, vont peut-être surveiller indistinctement. Donc on revient à des confusions possibles. Même chose, on parle beaucoup de repérage, de dépistage, de diagnostic. Et ce sont des mots bien différents. Et il y a des situations, je vais donner des exemples, où on propose aux personnes de faire une espèce d'auto-intervention avec des guillemets. Alors dans la recherche des troubles de la mémoire, on commence à voir des jeux vidéo, des scorings, des je ne sais quoi, qui seraient disponibles au grand public pour repérer des troubles de la mémoire. Bon, est-ce que c'est du dépistage ou du repérage? C'est clairement du repérage, puisqu'il faut toujours se souvenir qu'on ne parle pas de dépistage s'il n'y a pas un impact médical validé derrière. Comme pour l'instant, on est très démunis en manière thérapeutique, il y a un grand débat qui dit non. Pour l'instant, on ne recommande pas dans les bonnes pratiques le dépistage dans une population entière des troubles de la mémoire, des troubles cognitifs, mais un repérage pourrait être envisagé. Ça fait un gros débat. Cancer du côlon, les gens qui ont passé un certain âge reçoivent par la poste un courrier de la Sécu qui leur demande de pratiquer eux-mêmes une analyse des selles. Donc je l'ai mis dans la notion d'automesure. Et là, on est dans le dépistage. Il est clair que le diagnostic, c'est la coloscopie. Donc on est dans des logiques où là, l'intervention de la personne elle-même se situe à un endroit précis. Quant au cancer du sein, on est là dans le dépistage ou dans l'autosurveillance et on propose aux femmes à apprendre à palper elles-mêmes leur sein. Alors, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on leur propose que c'est efficace, fiable, on est encore dans d'autres situations. Mais là encore, dans la notion de surveillance, je pense qu'il faut avoir en tête toutes ces situations avec des étapes différentes dans la vie de la maladie, si je peux dire. Pareil pour l'autodiagnostic et l'autotest. Si je prends en bas des exemples très différents, vous pouvez sur Internet acheter un test salivaire pour savoir si vous êtes porteur ou pas du virus. Vous pouvez faire des tests génétiques et l'envoyer par la poste à une compagnie nord-américaine. Vous pouvez surveiller dans vos urines un certain nombre de paramètres. Là, vous allez en pharmacie acheter les bandelettes urinaires. Ou éventuellement, vous pouviez utiliser un test pour doser vous-même vos PSA, qui est un marqueur du dépistage du cancer, qui est un marqueur du cancer, pardon, mais qui est très contesté, qui a été retiré du commerce. Donc, là aussi, quand vous pratiquez une forme d'automesure, il faut avoir en tête que vous pouvez avoir une logique de prédiction, une logique de prévention des risques ou une logique d'aiguillage pour l'accès aux soins. Donc, tout ça va être en mémoire dans la discussion qu'on aura tout à l'heure. Les mots restent très précis pour ce qui est de l'auto-soin, le self-care ou le self-management. Alors là, les professionnels de santé sont en terrain connu. Ça fait au moins 20 ans, mais en fait plus, qu'on travaille le sujet. Des études ont été publiées. Sous-entendu, on en connaît les bénéfices, mais aussi les limites. Hein. Il ne faut absolument pas croire que cette notion de self-management va de soi. C'est en fait très compliqué. Mais par contre, en tout cas pour les deux exemples plus bas, c'est-à-dire en pneumologie ou en diabète, c'est recommandé de pratiquer ou d'aller vers cette forme d'auto-soin, de self-management. C'est important de le citer là parce que toutes ces pratiques maintenant s'accordent de l'auto-surveillance et s'accordent éventuellement de la connexion par Internet d'un certain nombre de paramètres. Avant, on donnait des dépliants papier pour dire aux gens « faites ceci en cas de crise d'asthme ». Maintenant, on propose des solutions connectées avec surveillance éventuelle connectée. Enfin, je cite l'auto-questionnaire qui est un outil, mais en gros, c'est un mode d'accès à la pensée qui est transmissible par nos smartphones. Ça dépend de ce qu'on interroge. Donc on peut poser des questions concernant la perception. On revient à la sémiologie classique. Le vécu, est-ce qu'on est malheureux ou pas, je caricature. Certains points de sémiologie, les antécédents, etc. Donc le fait de proposer des auto-questionnaires, c'est quelque chose qui peut être extrêmement riche. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant, on les corrèle aux objets connectés, que ce soit des objets grand public ou des dispositifs médicaux, et ça permet de contextualiser la mesure. Donc, on ne peut pas finalement dissocier le paramètre biomédical mesuré de son contexte par auto-questionnaire. Enfin, aux dernières remarques réglementaires, la télémédecine et la e-santé, c'est pas tout à fait pareil. Dans un certain cas, la télémédecine, c'est à la demande du médecin. Il y a, dans tous les pays occidentaux, des exigences de sécurisation de l'échange des données et d'identification des personnes qui sont très fortes. Et puis par contre, dans la e-santé, ce qu'on appelle maintenant le quantified self, c'est le consommateur qui achète quelque chose quelque part et qui envoie encore quelque part ses données. Donc, il faut avoir en tête toutes ces différences, même si on va tomber sur des choses tout à fait communes. Alors, on va maintenant détailler ce qu'on pourrait mesurer avec nos smartphones. Donc je me rappelle que Céline, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et qui connaissait très bien l'hypertension artérielle, avait bien rappelé qu'on était capable de tout mesurer, la pression artérielle, mais évidemment aussi la connerie. Alors, voilà en une image ce que je crois qu'on peut mesurer avec son smartphone. Alors, on peut avoir une évaluation du sommeil, de la fréquence cardiaque, du souffle. On peut enregistrer la voix et les bruits. Donc, au besoin, j'y reviendrai si vous avez des questions. La pression artérielle, la température, la concentration d'oxygène dans le sang, c'est la saturimétrie, la glycémie, le sucre dans le sang, la protéinurie. Il y a des systèmes qui les télétransmettent avec des bandelettes. Les tâches cutanées, c'est-à-dire qu'on fait des photos et vous avez des algorithmes, on va en reparler, qui interprètent le diagnostic possible derrière cette anomalie cutanée. le temps de mastication, et puis tout ce qui concerne les mouvements. On peut compter les pas, on peut commencer à apprécier les tremblements si on met les capteurs au bout du doigt, on peut géocaliser les personnes, on peut repérer si elles montent ou si elles descendent, on peut repérer les mouvements respiratoires, maintenant la position du dos, le mouvement, enfin tout quoi, hein, et bien sûr le poids. Alors, ça c'est ce qui est du domaine du possible et courant, c'est pas de la recherche, hein. Il y a des choses qui sont vendues. Alors je dis pas que c'est validé, je dis pas que ça se fait en pratique courante, mais c'est vendu, voilà, c'est dans le commerce. Alors, il est clair que si on se situe dans la pratique grand public de la forme, on est ce qu'on appelle dans le quantified self. Donc là, on a un consommateur de soins, vous noterez bien que je ne dis pas patient, et on a un système qui est maintenant l'Internet qui permet de transmettre toutes ces données. Donc là, c'est ce dont on parle absolument partout depuis un an, à la télé, à la radio, enfin on ne peut plus échapper à ça, et on nous promet monts et merveilles de ces pratiques. Qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Alors, je crois que ça reste extrêmement confus, mais enfin, ça y est, c'est commencé, c'est parti. Et Google propose son Google Health Book, qui consiste à dire, ça c'est un écran, qui consiste finalement à tout mettre sur le même écran. Donc, on vous met un questionnaire, c'est les données en cas de secours. On vous met la fréquence cardiaque, un taux d'hydratation, j'avoue que je ne sais même pas comment ça marche, la pression artérielle, l'activité, je l'ai dit. La nutrition, alors ça c'est souvent des calculs artificiels de calories liées à des dépenses et des mouvements. Le taux de sucre, enfin tout ce que j'ai dit, la respiration, l'oxygène, le poids, bref. On a un système commercial mondial qui met en musique ces paramètres connectés sous le terme santé. Alors, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est dans un domaine d'une grande confusion. On n'est pas encore vraiment dans le domaine médical, mais il est clair que la question se pose. Alors, je vais détailler maintenant la complexité de l'analyse. D'abord, on a des outils. Il y a des outils, ça fait bien longtemps qu'on les connaît. La balance, à des fins commerciales, existe depuis l'Antiquité. Après, on l'a introduit en physiologie au début du XVIIIe siècle, avec Santorio Santorio. Après, on l'a introduit en clinique. Ça, c'est beaucoup plus récent, hein. C'est fin 19e, début 20e. Et encore, si on faisait l'audit des dossiers médicaux de médecine générale ou de certains établissements hospitaliers, l'item poids n'est pas toujours renseigné, mais enfin, c'est clairement une valeur extrêmement pertinente. On a donc des balances de toutes les formes liées à des classes d'âge. Et ça fait longtemps qu'on repère l'évolution du poids dans la santé. Mais ce qui est nouveau, c'est que depuis 2009 pour les adultes, 2013 pour les bébés, on a des balances qui sont connectées et ce sont les objets connectés les plus vendus au monde dans le domaine de la santé. C'est ce qui se vend le mieux, les balances. Ça a commencé comme ça, l'histoire. Seulement, si on fait un regard médical sur la pratique de la mesure du poids, le médecin est obligé de répondre que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, en fait, le problème n'est pas le même suivant les populations. Si on a une maladie aiguë, par exemple l'insuffisance cardiaque, le médecin va trouver une pertinence à des variations de poids de 500 grammes sur 48 heures. Donc en disant ça, je dis une pathologie, je dis un critère de norme, je dis un delta de variation et je dis une périodicité de contrôle. Donc les gens qui vont se peser eux-mêmes, parce que je reste dans l'automesure ou dans l'autosurveillance, on demandera à la personne d'avoir une pratique d'automesure ciblée par rapport à sa pathologie. Et donc il faut qu'on repère 500 grammes 48 heures pour voir si une décompensation cardiaque peut arriver au domicile. Pour le diabète, c'est pareil. Le poids est extrêmement intéressant dans l'évolution du diabétique, mais si c'est un diabétique à l'insuline ou un diabétique qu'on appelle gras adulte, on a des normes de variation qui n'ont rien à voir. Si on s'intéresse à la tuberculose, au cancer, aux troubles de conduite alimentaire, on va avoir des critères de surveillance du poids très différents. Le cancer, j'y reviendrai sur un exemple. Évidemment, le nouveau-né, surtout si c'est un préma qui sort de Réa et qui regagne le domicile de la maman, on va avoir des courbes de croissance totalement spécifiques. Les personnes en obésité morbide qui ont des problèmes d'obésité absolument dramatiques, souvent d'options chirurgicales, on va avoir une appréciation différente dans l'algorithme. Et enfin, et c'est là pour l'instant où est le marché de la grande consommation ? C'est, on a des gens qui sont en surpoids, c'est un phénomène de société absolument général, que ce soit en Occident ou même maintenant dans les pays d'Asie ou d'Afrique parfois. On nous dit que de se peser, il faudrait le faire tous les jours maintenant, voilà ce que nous proposent les machines. Le médecin a un peu plus de mal à se dire, tiens, est-ce que c'est une crainte ou un espoir ? On y reviendra. Fréquence cardiaque, c'est pareil. La science médicale s'intéresse à la comptabilisation de la fréquence cardiaque depuis un moment. Le premier appareil, c'est un praticien anglais qui l'avait inventé en 1707. Mais ça intégrait déjà une pensée médicale clinique, si on peut dire, d'études du pouls, qui est extrêmement élaborée. Ça fait plus de 100 ans qu'on invente des machines pour étudier la fréquence et le rythme cardiaque. Mais depuis 2011, nos smartphones, en mettant le doigt sur l'appareil, gratuitement, nous comptent la fréquence cardiaque. Donc pareil, la fréquence cardiaque est maintenant un objectif de vente des smartphones ou des logiciels de santé connectés. Là encore, on va être obligé de complètement différencier du point de vue médical la position du sportif qui mesure sa fréquence cardiaque en faisant du vélo ou du jogging. Ça, c'est là le marché. Sauf que les vendeurs, sauf que les articles, le grand public, maintenant nous disent c'est bon pour la santé, la fréquence cardiaque, le cœur, c'est important, on peut mourir du cœur, etc. Mais là, il y a une forme d'erreur ou de mensonge, suivant que l'auteur est avisé ou pas, de dire qu'il y a une valeur médicale à mesurer sa fréquence cardiaque. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un continuum entre le normal et le pathologique et que c'est toujours un petit peu plus complexe que ça. On peut commencer à mentir un peu, pas trop, et on vend. Je passe le détail s'il y a des questions sur quelles sont les normes de fréquence cardiaque. Alors là, je reprends quelque chose qui se vend de plus en plus. J'ai eu la surprise de voir que ça s'achète chez Decathlon. Vous pouvez acheter des appareils pour moins de 40 euros qui mesurent le taux d'oxygène au bout du doigt et qui sont maintenant connectables à des smartphones. Mais là, l'utilisation, même par les médecins, est anarchique. C'est-à-dire, même les généralistes l'utilisent n'importe comment, même les pompiers l'utilisent n'importe comment, mais il y a un grand succès commercial. Donc, quand on va raisonner sur l'autosurveillance, il va falloir faire avec ça, parce que maintenant, nous avons des personnes qui achètent ce type d'appareil, pas à la demande du médecin, mais sur leur propre initiative, et qui demandent au médecin, j'en fais quoi ? Et de plus en plus, par les insuffisants respiratoires, qui sont quand même 2 millions en France. Donc, ils nous posent un problème d'interprétation des résultats qui est extrêmement délicat parce qu'ils ont une pathologie. La saturimétrie pourrait avoir un sens, sauf qu'ils sont maintenant à nous envoyer par mail des données connectées et on n'est pas du tout, pour l'instant, ouvert et équipé à les recevoir. Si on est dans un jugement médical, voici comment on pourrait proposer un jugement de ces dispositifs. Un, le capteur, est-il de bonne ou de mauvaise qualité ? Ça, c'est facile, c'est un travail d'ingénieur, voire de normes. Deux, est-ce que c'est intéressant de mesurer ce paramètre ? Donc, j'ai dit oui pour la pression artérielle, je dis oui pour le poids, en fonction du contexte. Par contre, la saturimétrie en oxygène au bout du doigt, pour l'instant, c'est pas clair, ou en tout cas, pas pour beaucoup de gens. Ensuite, si vous faites la mesure, est-ce que la façon dont vous faites la mesure, est-ce que le contexte est bien précisé et pertinent ? Donc on peut avoir une constante biologique intelligemment mesurée, mais mal mesurée. On y reviendra pour la pression artérielle. Ensuite, ces appareils sont tous liés à des systèmes d'information. Ce sont des boîtes noires au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas comment les algorithmes sont écrits. Ils pourraient être privés. Bref, on a un manque de lisibilité. Admettons qu'on ait franchi ces quatre étapes, qu'on soit dans les clous. À ce moment-là, si on les met sur le marché du soin, on va dire, est-ce que c'est faisable ? Est-ce que les gens l'acceptent ? Et quand je dis les gens, c'est à la fois le consommateur, ça, les consommateurs, ils sont toujours d'accord, ou souvent, mais est-ce que les médecins acceptent même une mesure valable ? C'est encore dans l'entrée d'une pratique, dans la pratique courante, j'ose pas dire sociologie, une étape importante. Et enfin, et ça, c'est du point de vue scientifique, il ne serait pas raisonnable de les juger sans étude qui dirait oui, avec une méthodologie précise, oui, ce dispositif avec tous ces prérequis déjà remplis, oui, sont utiles et ça se voit, et utile de combien, et utile comment, et avec quel inconvénient parfois. Donc là, on en est très très loin pour ce qui est de l'automesure connectée. Alors, tout le monde demande si ces appareils qui se connectent en continu rendent fou. Alors, premièrement, on peut être inquiet pour mesurer sa fréquence cardiaque, et cette caricature de Daumier nous le rappelle. Ça fait un moment qu'il existe des gens à tendance hypochondriaque. Évidemment, ça pourrait ne pas s'arranger si on est connecté, si c'est tout le temps, et s'il y a des alarmes qui se déclenchent et qui vous envoient des signaux inquiétants. On peut aussi en rajouter trop et penser que c'est l'instrument qui crée la crainte. Maintenant, il y a un raisonnement à faire. En fait, est-ce qu'un appareil chez quelqu'un de psychologiquement sain devient fou avec un thermomètre ? C'est une discussion. Il y a, ma connaissance, pas encore de travaux assez bien faits pour faire ce partage. Mais j'ai laissé, les héritiers du goût m'ont autorisé à reprendre cette photo. J'ai trouvé que le traiter par humour, c'était à ce stade le mieux. Alors, peut-être qu'il faut qu'on relise, à l'aune de la santé connectée, les travaux sur la surconsommation de soins ou l'invention des maladies. Et là, c'est vrai que cette autosurveillance connectée nous rajoute des éléments pour lesquels il va falloir qu'on réfléchisse. Et évidemment, ça j'adore Bouvard et Pécuchet, et si nous ne savions pas de quoi notre corps est fait, nous n'oserions pas faire un pas. Il est clair, je vais vous montrer quelques exemples, où il y a des innovations, avec beaucoup de guillemets, qui sont à poser des questions. Et en voici une. Sur un site internet d'une association non-profit organization de médias, j'ai vu cette alerte, c'est-à-dire qu'une utilisatrice a photographié un grain de beauté, l'algorithme lui a répondu « vous êtes à haute fréquence de mélanome » et il y a un témoignage de cet utilisateur qui dit « mais c'est une catastrophe, j'ai cru que j'allais mourir parce que mon frère et mon père étaient déjà morts d'un mélanome », c'est d'ailleurs pour ça que la personne avait fait le test, et elle décrit sur ce site internet une utilisation anxiogène de l'autosurveillance. Ce qu'il faut savoir, et là il y a quelques études, c'est que généralement les personnes saines font des autotests. Dans 98%, c'est normaux, donc ils sont très contents. Mais en fait, quand on fait un test, c'est pour le vouloir ardemment normal. Hein, et les vraies personnes à risque, s'ils se sentent à risque, à la limite, elles évitent le test. Hein, c'est, faut pas oublier ça. Alors, ça, c'est dans le monde d'aujourd'hui. J'ai pensé que c'était adapté. Parce que l'autosurveillance, c'est gentil, mais maintenant, c'est plus le médecin de soi-même, c'est plus la personne avec elle-même. Et pour les grains de beauté, si vous aimez quelqu'un, surveillez ses grains de beauté. C'est-à-dire que l'autosurveillance se déborde non pas simplement à l'individu, mais éventuellement à un professionnel de santé. Mais maintenant, et on va le voir comment, l'entourage est fortement sollicité. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, là, il ne s'agit pas de connexion, mais vous imaginez bien qu'il suffit d'acheter l'appli et d'aller photographier qui l'enfant, la mère. Bon, bref, vous voyez où je veux en venir. L'appel à l'émotion, à la parentalité sur l'automesure, elle date d'avant la connexion. Hein. Ça fait 15 ans qu'on veillait déjà pour la prévention de l'arrêt du tabac, l'appel à la famille ou pour la vente des tensiomètres, une idée cadeau du Père Noël pour ceux que vous aimez. Donc ce ressort ne doit rien à la modernité de la connexion. Il existe déjà, mais justement, il faut qu'on le garde en tête parce que du coup, il est extrêmement puissant. Et on va le mettre maintenant dans les objets connectés. Alors, voilà ce qu'on trouve sur Internet. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Mais pour 25 euros, vous pouvez acheter une tétine qui donne la température et la géolocalisation. Donc, je vous laisse deviner le caractère un peu terrible d'une mère anxieuse. Moi, je la vois très bien partir en week-end, voir sur son smartphone 37.8. Qu'est-ce qu'on fait de 37.8 ou 38.2, j'en sais rien. Et je plains la babysitter qui recevra un coup de téléphone en disant « Mon enfant a 37.8, j'en fais quoi ?» Elle va dire « Ah bah je sais pas, je l'envoie aux urgences. Ah bah non, on appelle le généraliste. Le généraliste va venir, mais comme il aura peur de la judiciarisation, il dira « Bon bah quand même, aller à l'hôpital. » Enfin, voilà, je caricature, mais qui surveille qui ? Bien sûr, on peut le faire dans l'autre sens. Nous avons beaucoup de parents très âgés. Et pour 130 euros, vous pouvez vous acheter un appareil qui enregistre vos messages pour penser à dire à maman de prendre ses médicaments. Et c'est, je cite, « un atelier face à l'Alzheimer ». Donc on a une technologie commerciale qui va très très loin. On peut continuer à vendre la protection des personnes Alzheimer. On les surveille à distance. La personne n'a que à appuyer un bouton. Et des systèmes, après, font le reste. Ils font le reste de façon lointaine et puissante, c'est-à-dire qui donne au surveillant, avec des guillemets, la géolocalisation de la personne. Alors qu'est-ce qu'on déclenche ? On peut déclencher des systèmes commerciaux qui prennent en charge, les assureurs le font, un patient en difficulté. Alors là, vous voyez, là, j'ai quitté le registre crainte, j'ai mis débattre du bénéfice possible et du mésusage. Parce qu'en fait, il y a un vrai débat qui est très bien d'ailleurs posé dans la littérature, à la fois au niveau éthique, à la fois au niveau réglementaire. Proposer un système de surveillance GPS à des personnes, notamment en troubles cognitifs, c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais puisqu'il n'y a pas de continuum entre la gravité, les formes légères, les formes légères, il y a bien un moment où ça va se passer mal. Et puis si on propose le même système qui existe déjà, bien sûr pour les chiens, c'est le même prix, c'est les mêmes fabricants, mais aussi pour un enfant un peu turbulent, on voit bien où la notion de surveillance connectée dérive. C'est-à-dire, est-ce qu'un parent doit toujours savoir ou être en mesure de repérer où se trouve un enfant éventuellement un peu turbulent, borderline ? Je pose la question. Enfin, ces données vont dans un système informatique. Elles vont où ? Alors, elles étaient privées au départ, c'est une seule personne. Alors, elles vont dans le cloud, c'est quoi ? Est-ce qu'elles sont anonymisées ? Est-ce que la personne l'a faite elle-même pour son seul usage, il y a quelques mots de passe pour les retrouver ? Très bien. Est-ce qu'il y a des nouveaux surveillants ? Je viens de donner des exemples et ce sont accessibles par l'entourage. Est-ce que l'employeur, je vais donner un exemple, a accès à ces données ? C'est en train d'arriver. Est-ce que les assureurs sont en train d'avoir accès ? C'est en train d'arriver. Et là, on peut mettre ça dans le chapitre des craintes aussi. Est-ce que les chercheurs ont accès ? Oui, je crois que c'est hier ou avant-hier, Google se vante de donner accès à des chercheurs l'ensemble des data, big data qui vont être connectés. Donc les chercheurs ont accès à tout ça, anonymisé je pense. Et réseaux sociaux, c'est-à-dire que, comme pour une photo, on peut envoyer soi-même, on croit envoyer à un cercle restreint une donnée, en fait elle est totalement publique et il y a un mésusage possible et ça peut se retourner contre l'utilisateur. Donc première question, on n'est pas très clair. Les employeurs, ça c'est une capture de site nord-américain que j'ai faite hier. On est en train de vendre ce qu'on appelle le wellness corporate, c'est-à-dire que puisque aux États-Unis, l'employeur a un intérêt économique et fonctionnel que les employés soient en bonne santé, on va prendre en charge les employés et leur proposer, je cite, des coachings avec de l'autosurveillance et des objets connectés. Donc ça a commencé, les employeurs commence à distribuer des podomètres ou des balances à des tensiomètres, semble-t-il, à des employeurs pour qu'ils se surveillent. Mais les données anonymisées de l'entreprise sont affichées dans l'entrée de l'entreprise comme le cours de l'action. C'est un peu curieux quand même. Je le mentionne parce que c'est extrêmement important. La connexion, parfois, débouche sur des idées très concrètes. Encore une fois, mon propos est concret. Et qui sont éthiquement extrêmement discutables. Très récemment, les pouvoirs publics avaient décidé de mettre un mouchard électronique sur les personnes insuffisantes respiratoires qui sont traitées par des masques qui donnent une pression positive continue pour le sommeil, pour traiter le syndrome d'apnée du sommeil. Très discrètement, les mêmes pouvoirs publics ont publié un décret autorisant le déremboursement des frais de prise en charge par la Sécu des patients non observants. Heureusement, il y a eu quelques personnes qui s'en sont fortement inquiétées et les associations de patients ont posé un recours devant le Conseil d'État qui a cassé ce décret et tout a été retiré. Le problème a été tranché temporairement, il va revenir et il est complètement lié à la notion d'autosurveillance ou de surveillance, puisque la nature étant bien faite, quand on est du point de vue des commerciaux, bien entendu, les prestataires qui avaient avantage à ce que ce système marche avaient réussi à sortir des sondages comme quoi 95% des gens étaient volontaires pour cette surveillance. Donc, vous me direz, c'est le syndrome d'asservissement volontaire, mais toutes ces questions-là arrivent. Ça, ce n'est pas dans la pratique courante à ma connaissance, mais c'est vendu aux États-Unis. Je ne crois pas que ça existe en France. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est un système de surveillance de la prise des médicaments des asthmatiques, des millions de personnes en France et évidemment bien plus. Donc maintenant, le professionnel de santé va avoir des moyens techniques totalement performants pour savoir si les personnes sont observantes ou pas. Ça pose, je ne détaille pas, ça sera peut-être dans la discussion, des problèmes extrêmement importants, car il n'est pas évident que les patients aient toujours intérêt à bien observer les prescriptions de leur médecin, surtout si la prescription du médecin est mauvaise. Donc c'est quand même une survie de ne pas suivre une mauvaise ordonnance. Donc si en plus maintenant on flique par téléobservance les personnes, on arrive dans des problèmes de société extrêmement importants. Soyons positifs. Est-ce que ces nouveaux modes de contact vont nous permettre d'avoir des nouvelles modes d'organisation des soins pertinents? La question est tout à fait intéressante. D'ailleurs, nous, on travaille dessus. Est-ce qu'on peut améliorer le recours aux soins? Est-ce que ces appareils pourraient sélectionner des cas plus graves qui iraient plutôt dans tel hôpital et puis des cas moins graves qui iraient plutôt vers un système infirmier ou que sais-je? Est-ce que ça pourrait générer des économies? Évidemment, les gens tristes ou pessimistes diront « attention, ça va peut-être aggraver les dépenses de soins ». Ça, c'est aux évaluations de le dire. En tout cas, il est vrai que tous ces appareils apportent un contexte radicalement nouveau et une innovation de rupture dans la prise en charge des soins est quand même tout à fait possible. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe depuis 2 ans. J'ai essayé d'en poser les bases, mais ça mérite d'être travaillé. Dans les deux sens, espoir et crainte. Alors c'est Topol, un médecin américain, qui explique bien comment on va vers ce changement. En gros, on a des données nouvelles, de l'imagerie, la capacité des patients à faire quelque chose, de la génétique, des systèmes d'information. On a de l'informatisation et tout ça est en train de se réunir et ça va nous changer les choses. Dans mon propos, et je donnerai un exemple, j'ai encore 5 minutes, on a les objets connectés d'autosurveillance. On a des algorithmes et on va peut-être pouvoir construire des choses nouvelles. Je peux donner 2 exemples. Celui du cancer du poumon et celui de l'hypertension artérielle. Cancer du poumon, je ne vais donner qu'une seule diapositive. C'est une expérience, je vais vous la lire parce qu'elle est illisible pour vous, je n'ai pas eu le temps de la faire plus présentable. Ce sont des cliniciens du Mans qui ont fait un score de 20 questions cliniques pour des personnes qui ont fumé énormément ou qui sont déjà en diagnostic de cancer bronchique, où ils additionnent des valeurs comme toux, essoufflement, amaigrissement, fièvre, présence de sang dans les urines ou dans les crachats, douleurs, troubles neurologiques. On est dans l'auto-questionnaire et éventuellement l'automesure. Il a mis tout ça dans un algorithme, 20 symptômes. Les personnes, à une période dite, que je n'ai plus en tête, mais du genre une fois tous les 15 jours, le remplissent, ça rend des scores, et quand des seuils d'alerte s'allument, ils avancent leur consultation avec le spécialiste qui les suit pour cancer bronchique, et ça influe sur la durée du contrôle de scanner. Ça semble extrêmement intelligent. Donc il y a une publication qui est toute récente, c'est français, ce genre de choses qui me paraissent à mettre en débat. Donc là on a de l'auto-questionnaire, donc on est vraiment dans des choses simples, de l'auto-mesure, dans de la connexion, puisqu'un algorithme est un petit signal qui s'allume avec des zones couleurs très classiques. Donc là, il y a évidemment un nouveau soin de recherche. Alors, je vais vous le détailler maintenant de ce qu'on fait à Pompidou sur l'hypertension artérielle. 100% de la population est concernée par sa mesure de la pression artérielle, des enfants aux adultes. C'est un geste qui appartient à la pratique médicale. Il est important de connaître sa pression artérielle. Attention, en disant ça, je n'ai pas dit toutes les 5 minutes. Hein. Ça peut être une fois tous les 2 ans. Si on la mesure, 1/3 de la population adulte mondiale dépasse les normes. Donc 1/3 de la population adulte mondiale, c'est un volume de soins, si vous le faites à l'ancienne avec un médecin, qui est extrêmement coûteux. Extrêmement coûteux. L'hypertension artérielle est le premier motif de consultation par les généralistes. C'est extrêmement coûteux. Et puis en plus, on peut le faire mieux à la maison. Donc ce serait dommage de s'en passer. Et c'est ce tiers de la population, on estime que 10% doivent bénéficier d'un avis spécialisé. Le reste, c'est de la médecine générale. Donc voici le contexte. On a inventé les appareils d'automesure et, mettons, depuis les années 90, et au pire, si je suis très, très exigeant, depuis les années 2000, il est internationalement reconnu, prouvé, validé, recommandé que l'usage correct des appareils d'automesure fait mieux que la mesure au cabinet médical pour la surveillance de l'hypertension artérielle ou le dépistage en situation chronique. Je ne parle pas de la mesure d'un accidenté de la route qui serait en hémorragie chez qui on a besoin d'une valeur de pression artérielle. Là, je parle du tiers de l'humanité. En 2011 est apparu un tensiomètre connecté et nous avons sorti, nous, l'algorithme qu'on est en train de mettre en place. Enfin, il est en place pour partie, je vais vous l'expliquer, pour traiter ces données. Donc par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques années, et Lydie Giroux qui est là, nous voyait utiliser des appareils d'automesure et à la main, ben non, on confie ça avec des machines, c'est tellement mieux. Alors, je plaisante. Ce qu'on a appris avec les études de télémédecine, c'est que l'appareil avait des qualités fondamentales, mais la connexion, c'est-à-dire qu'il est capable d'agir sur le comportement par le partage d'informations et du patient et du médecin, permettait de regagner un petit peu. Alors, ça regagne comment ? Ça regagne parce que ça agit sur les comportements. Et donc, quand on se surveille de près la pression artérielle par télémédecine, hein, pas par Quantified Self, parce qu'à l'époque, ce n'était pas en place, mais quand on surveille de près par télémédecine, le message d'alerte du fait de ne pas être contrôlé qui arrive et aux médecins et aux patients fait que le médecin augmente les traitements et le patient arrête d'oublier de les prendre. Et donc, cette modification de comportement qui est due à la technologie permet un gain modeste, mais réel, quantifié, de 4 mm pour la systolique et 2,5 mm, ce qui n'est pas grand-chose pour la systolique. Mais encore une fois, si on élargit ce gain à toute une population, le gain en santé publique pourrait être considérable. Ça, c'est de l'expérimentation encore. Hein. Parce que, et pourquoi c'est de l'expérimentation ? Parce que la télémédecine, donc des appareils proposés par le médecin avec des systèmes de sécurisation très forts, c'est extrêmement coûteux. Donc aucun pays n'est parvenu encore à mettre en place ce système de façon généralisée. Mais tout va pouvoir changer avec les smartphones, puisque le modèle économique change. Alors nous, ce qu'on propose, c'est de dire...
Puisqu'on était dans la contextualisation, c'est 4 mm ou 2 mm, toute tension confondue, parce qu'au fond, ce qui compte, c'est quand on se rapproche de la limite normale. Ce n'est pas la même chose 2 mm à 14 et 2 mm à 16.
C'était une étude partant au départ d'individus non contrôlés, donc qui étaient au-dessus des normes. Et l'étude a aussi fait le calcul des... proportion de personnes dans le groupe, mais j'ai plus les effectifs en tête, qui sont redevenus à la normale, donc 10 contrôlés, et c'est très significatif quand même. Votre remarque est juste, c'est-à-dire qu'en termes de danger, les millimètres de partant du haut ont un bénéfice clinique sur le risque plus important que quand on se rapproche des normes, mais pour autant, il a été démontré que la norme en pression artérielle étant assez consensuelle, il y a un bénéfice de passer en dessous de la norme, même si on en était proche. Donc, ce qu'on propose actuellement, c'est de dire, on va travailler des nouveaux capteurs et on va leur associer un algorithme et on va augmenter la qualité de l'automesure tensionnelle. Donc, le e-result qu'on a fabriqué, il fonctionne avec les appareils classiques, mais les gens doivent recopier sur le web, ou il va fonctionner, ça devait le faire en janvier, le constructeur est un peu en retard, mais j'espère le mois prochain, directement avec un appareil qui donne tout dans le smartphone. Si on est dans l'usage grand public, on a cette automesure smartphone qui est... Voilà, ça s'achète à la FNAC, ça s'achète en pharmacie sans médecin, il n'y a aucune réglementation. Vous pouvez, avec l'algorithme, utiliser qui le veut. Par contre, quand l'algorithme aura signalé un dépassement de la norme, il est clair qu'un avis médical est nécessaire, je vais y revenir pour le contextualiser, et il est clair qu'on devrait être capable très rapidement de faire au besoin ce premier avis médical, non seulement par des systèmes automatiques que je vais vous exposer, mais éventuellement après un contact direct par messagerie qui pourrait déboucher sur un rendez-vous. Après, pour l'avis spécialisé, c'est juste pour mémoire, le recours au spécialiste ne saurait être dans le même sac que l'automesure, entre guillemets, grand public. Mais pour autant, les machines vont être les mêmes un jour ou l'autre. L'ordinateur du professionnel, c'est le même que l'ordinateur maintenant du scientifique. Alors, nous, le travail, c'est de médicaliser l'automesure. Donc, on veut quitter la forme et la fitness et la grande consommation. On veut se rapprocher du soin et de la santé. Alors, c'est là où l'algorithme peut améliorer la qualité. C'est-à-dire que notre algorithme que je vais vous montrer ne fonctionne pas si on n'a pas un minimum de mesures réparties matin et soir comme le veut les recommandations. Et il s'oppose à ce que les personnes mesurent leur tension tous les quarts d'heure pendant 48 heures, ce qui n'est pour l'instant pas dans les pratiques recommandées et on n'a pas de données scientifiques pour bien savoir comment les interpréter. Donc, l'algorithme là, il est plutôt pour freiner une anarchie de consommation qui consisterait à se mesurer en continu tout le temps, pour faire court. Ça, c'est la partie pédagogique sur le site web. On rappelle bien toutes ces mesures. On a des blocages de valeurs aberrantes. Et évidemment, dans l'appareil intégré, la machine est capable de refuser des valeurs. Donc, encore une fois, le système e-result fonctionne aussi bien sur les appareils non connectés que connectés. On retombe sur les questionnaires. Ça, c'est la version web qui fonctionne maintenant depuis le 16 décembre. On met un certain nombre de renseignements, ces médicaments. On recopie ces valeurs. On appuie sur un bouton. Ça organise les valeurs dans un format qui est pertinent pour le médecin, qui calcule un certain nombre de moyennes. Et à la fin, trois possibilités. Soit vous enregistrez vos mesures sur votre ordinateur, soit vous les envoyez par mail, soit, et c'est là la nouveauté, vous demandez à la machine d'interpréter vos mesures. De nouvelles questions médicales apparaissent, 9 ou 10 questions qui sont plus pertinentes, qui sont plus invasives sur la vie privée. C'est pour ça que dans notre système, elles ne sont pas mémorisées. On se refuse à ce que ça parte dans le cloud ou ailleurs. On pense qu'actuellement, les systèmes de sécurisation ne sont pas au point et on ne voudrait pas être à favoriser des distributions de données, contraception orale, consommation d'alcool. On estime qu'on préfère que les gens recopient 3 mois plus tard à nouveau, mais on ne veut pas que ça soit mémorisé. On analyse et les combinaisons des questions et des valeurs de pression artérielle systolique et diastolique font revenir dans la machine des blocs de messages, messages texte dans les articles anglais, qui finalement donnent ce que pourrait dire un généraliste. Donc on va assez loin dans l'interprétation du message et on donne un qualificatif sur le caractère urgent de la vie médicale. Bien sûr, par précaution, pour des raisons de réglementation et d'assurance, on met « faites vérifier par un médecin ». Mais on a fait une étude de validation, l'appareil ne se trompe pas. Donc ça, c'est en cours de publication. Donc on a une machine qui a un algorithme en pression artérielle qui va assez loin puisqu'il vous dit si vous devez aller voir chez le médecin ou pas. Donc effectivement, dans le cadre de la réorganisation des soins et de l'autosurveillance, on a maintenant des machines qui peuvent jouer sur l'accès au médecin. Les machines, quand elles sont très sophistiquées et automatiques, peuvent vous empêcher, encore une fois, de faire des mesures au mauvais moment et peuvent aussi, c'est dans l'algorithme, à tolérer un certain nombre d'oublis. C'est-à-dire que à la fois notre protocole est exigeant, mais à la fois on a intégré que 2 demi-journées, les patients pouvaient avoir autre chose à faire et l'algorithme fonctionne quand même. Voilà. Ça donne un compte-rendu dont la personne est totalement propriétaire et à lui ou pas de partager avec le médecin. Donc en conclusion, pour ce qui est de la pression artérielle, on pense qu'on peut aller assez loin et on simplifie la conduite avec un langage couleur. Dans le vert, pas besoin de reprendre rendez-vous. Question, c'est ma dernière diapo. Est-ce que toute cette médecine cognitive va nous entraîner des diagnostics en excès ou des consommations de soins en excès? C'est tout à fait possible. Est-ce qu'on participe à une déshumanisation de la médecine? C'est tout à fait possible. Si on en discute, peut répondre pourquoi on peut être craintif. Est-ce qu'on va être gêné par la fracture numérique? Pareil, je pense que c'est un vrai problème pour nos sociétés. Et il y a en ce moment un article dont j'ai oublié de citer l'auteur qui circule dans New England, qui a compté le temps des médecins aux présences d'un lit du malade et le temps au niveau des ordinateurs. Donc c'est 12 minutes à l'hôpital devant le malade, 40 minutes devant l'ordinateur pour un patient. Et la conclusion de l'article, c'est formidable, nos ordinateurs sont bien soignés. Et j'aime bien cette conclusion. Merci.